Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Qu'est-ce que tu veux ? À 30 ans, la question, elle est beaucoup trop globale et la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc, descends d'un step, en fait. Réduis la question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, déjà ? Qu'est-ce que tu veux bouffer ? Qu'est-ce que tu veux la semaine prochaine ? Parce que la vie, elle est de toute façon tellement longue, tellement belle, mais tellement dure à la fois, que franchement, je crois que le but, c'est déjà passer une bonne semaine.
Être immune, c'est vivre à l'abri des chocs, des ennuis, des souffrances. C'est être hors de portée des flèches. Avoir assez de biens pour vivre sans rechercher flatterie ni réussite. Ne pas être obligé d'accepter les invitations et ne pas se soucier des éloges que reçoivent les autres. Être forte, satisfaite, sentir que personne ne pense à moi et que je peux me reposer. L'immunité est un état paisible et exalté, désirable, que je pourrais atteindre bien plus souvent que je ne le fais. N'être rien, n'est-ce pas l'état le plus satisfaisant du monde ? Alors je vous l'accorde, c'est une façon extrêmement pompeuse de démarrer un podcast, mais c'est une citation de Virginia Woolf sur laquelle je suis tombée il y a quelques jours et qui m'a beaucoup fait penser à la discussion que j'ai eue avec Morgane Cadignan dans ce nouvel épisode des gens qui doutent. Morgane est humoriste, vous avez peut-être déjà entendu une de ses chroniques dans Click ou vu des bouts de son spectacle sur YouTube ou dans des comedy clubs parisiens. Elle est très drôle, mais surtout elle a un cerveau que j'aime énormément et donc je suis très heureuse qu'on ait pu enregistrer un épisode ensemble. On a parlé de plein de choses, de toutes les théories et certitudes qu'on utilise pour planquer nos doutes, de comment se remettre d'une rupture, plot twist, on n'a pas trouvé la réponse, d'accepter ou pas l'incertitude de la vie, de comment aborder des sujets tragiques sur scène, d'une teub dessinée sur un arbre, de la fameuse question « est-ce que je serai un jour heureux ?» et de l'impression comme ça d'être dans la salle d'attente du bonheur. Et c'est assez marrant de voir que sur certains sujets, on a réagi de manière totalement opposée, notamment parce qu'elle est aussi optimiste que je suis pessimiste. J'espère que cette discussion vous plaira.
Ok, je pense qu'au niveau du son, on est bon.
Après, on est chez le psy.
Pardon ? Ouais, écoute. Quelles sont tes blessures d'enfance ?
Je commence par ordre alphabétique, tu veux dire ?
Non, par ordre croissant, de ce qui t'a le plus traumatisé.
C'est une vraie question ? C'est
non. Par contre, je pense que je vais faire un bingo, les gens qui doutent, à chaque fois que les gens répondent au premier degré à une question
qui est au second degré.
Ça te saoule, les interviews ?
Pas du tout.
T'es égocentrique ?
Un peu. J'ai pas de plaisir à m'écouter, mais les interviews ont ça de bon de ça t'oblige à réfléchir à des réponses sur des questions que tu te posais pas tout seul. Tu vois, je sens que tu peux me coincer potentiellement. Je sais pas si ça a démarré, c'est terrible.
Tu verras bien.
Ok.
Mais t'es pas du genre à déjà te poser trop de questions ?
Ah bah. Si. Si, si.
Non, merci Morgane Cadignan. Si, si.
Non, mais si, si, bah je me pose beaucoup de questions. Je sais pas si c'est être cérébral ou pas, mais. Oui, je me pose beaucoup de questions, mais en général sur la vie, pas forcément des questions sur moi. Et, ou sur ce que les gens pensent de moi ou de mon travail. Donc je sais pas du coup si c'est de l'égocentrisme.
Ça t'angoisse à quel point ce que les gens pensent de toi, de ton travail ? Ces deux questions différentes.
De moins en moins. ce que les gens pensent de moi, ça m'angoisse de moins en moins. J'arrive vraiment à m'en foutre de plus en plus, à prendre vraiment du recul. J'écoutais justement l'épisode que t'as fait avec Flaubert, où il disait que parfois quand il rentrait de soirée sur le chemin du retour, c'était horrible parce qu'il se disait mais c'est pas possible, j'ai dû ça et j'ai eu ce rire là et pourquoi là j'ai dansé comme un con. Et ça m'a parlé tellement fort parce que c'est vraiment un truc que j'ai eu longtemps, de me coucher les yeux ouverts en me disant mais meuf t'as vraiment dit ça, pourquoi t'es passée, etc. Et en fait, en grandissant, tu te rends compte que tout le monde est tellement pas fucked up, mais les gens ont tellement de trucs à porter pour eux-mêmes qu'ils ont pas le temps en fait de penser à quel point t'as été chelou, parce que eux-mêmes sont déjà en train de penser à quel point eux ont été chelous. Et cette pensée me rassure tous les jours de me dire mais meuf, tout le monde a tellement son fardeau à porter qu'on s'en fout de toi. Les gens sont pas en train de se dire ah Morgane, regarde comment elle est habillée ou ce qu'elle a dit ou... Donc ça, c'est sur ce que les gens pensent de moi en tant que personne.
Et il n'y a pas un côté angoissant à ça aussi ? Au fait qu'au final, ça compte pas tellement ce que tu fais. Ça compte pas ce que tu fais, Morgane.
Alors, ça aurait un côté angoissant dans le boulot. Mais dans la vie, non, moi, ça me rassure. En fait, j'ai vraiment besoin de savoir qu'on peut m'oublier et que je suis... Et que je peux passer inaperçue. C'est pour ça que parfois, quand je pars en vacances, je me casse un mois parce que t'as vraiment un besoin de disparaître de la surface de la Terre et que les gens t'oublient. Et c'est quelque chose qui me rassure de me dire que j'existe pas dans la tête des gens à un moment.
Et à quel point ça t'angoisse l'image que les gens ont de ton travail ?
Alors, c'est plus une angoisse. Ça m'angoisse beaucoup plus que les gens pensent de mon travail que ce que les gens pensent de ma personne. Après, c'est très lié dans les métiers qu'on fait. Enfin, dans le stand-up, dans ton outil, c'est ton corps. C'est pas t'as fait une présentation PowerPoint, t'as chié, et t'as chié ton PowerPoint et tu t'affiches en réunion. Là, c'est ta voix, c'est ton corps, c'est ta façon de tenir le métro, c'est le...
Alors, il y a une grosse mise en scène dans son spectacle.
À un moment, il y a de la pyromanie, etc. Enfin, voilà. Non, ta manière de tenir le micro, c'est toi. Donc, au final, ton travail est tellement lié avec ce que t'es, et ce que tu racontes, c'est quand même assez personnel.
Mais oui, mais du coup, ce qui t'angoisse, c'est ce que les gens pensent de toi vis-à-vis de ton travail. Le truc intrinsèque, c'est si vous n'aimez pas ce que je fais, vous m'aimez pas moi.
J'arrive encore, et je dis pas que ça changera pas très vite, dans pas longtemps, mais j'arrive encore à mettre une petite distance avec ça. À me dire que, ok, les gens ont pas aimé mon spectacle, mais je suis tellement d'autres choses que le stand-up. Je suis pas une puriste, en fait. Je pense pas être, je mange pas stand-up, je me lève pas stand-up, ça prend de la place dans ma vie parce que c'est mon métier, mais vraiment au rang de métier. Je suis une femme plurielle, Fanny. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Comment
ou pas
tu assumes toutes tes casquettes? Non, alors là, j'ai beaucoup de questions, du coup.
Vas-y.
T'as dit, j'ai encore la capacité de faire la différence. Pourquoi est-ce que ça va changer? Parce que tu penses que tu vas percer?
Non, mais en tout cas, je vais mettre tous mes efforts et toute mon énergie pour que ça arrive. Donc forcément, je vais faire plus de plateaux le soir. Donc le stand-up va prendre de plus en plus de place. Parce que je vais écrire de plus en plus, je vais tester de plus en plus, j'espère jouer de plus en plus et tourner de plus en plus.
Pourquoi ? Parce que c'est une volonté ou parce que juste ta carrière évolue ?
Parce que ma carrière évolue. Mais après, c'est une volonté que ma carrière évolue. On fait pas ça pour... Personne fait ça pour ne pas percer, je pense. Ça serait très malhonnête de dire ça me va de faire 2-3 plateaux le soir et de remplir une salle de 15 personnes toute ma vie. Je suis pas dans le discours, je suis là pour niquer le game, mais...
Non, je comprends.
Tu vois, faut être honnête 2 secondes avec soi-même et avec les autres. Tu fais pas ça pour remplir des salles de 30 pendant 10 ans.
Et tu dis que... Et c'est un truc que tu m'avais déjà dit et qui m'avait assez fort marqué, parce que je pense que c'est le cas de peu de gens. Tu vois ça vraiment comme un travail.
Ouais. Oui, parce que mon épanouissement, et je suis pas carriériste. Et c'est très bizarre, c'est très antinomique de pas être carriériste dans ces métiers-là.
Ouais.
Parce que t'es censé mettre toute ton énergie, t'es censé avoir les crocs, t'es censé pas t'épuiser, mais tout faire pour que ça marche. Et moi, je sais depuis longtemps que quel que soit le métier, mon bonheur et mon épanouissement personnel ne viendra pas du taf que je fais. Je peux demain avoir une superbe carrière et être très malheureuse. Je sais que ça me suffira pas. Si demain, le stand-up ne marche pas et que je dois aller ouvrir un bar à cocktail au fin fond d'une île dans les Caraïbes.
Arrête de me chauffer.
Non, mais Samira, en fait, parce que le plus important pour moi, c'est d'être ancrée et d'être au bon endroit de ma vie, au moment où j'y suis, et d'être droite dans mes bottes le matin. Si un jour, c'est plus stand-up, je me forcerai plus, carrière ou pas carrière. Si un jour, ça me rend plus heureuse, j'arrêterai de le faire. Tant pis si j'étais lancée. L'important, c'est juste d'être bien et heureux et épanoui.
Ok, deux questions que je vais dire maintenant, sinon je vais les oublier.
Vas-y.
Premièrement, est-ce que du coup, c'est pas angoissant de te dire que tu mets plein d'efforts pour arriver à quelque chose qui potentiellement t'amusera plus demain ? Et secondement, comment tu sais que t'es bien ancré au bon moment de ta vie et au bon endroit ? Et...
La première, c'était est-ce que c'est pas angoissant de mettre toute mon énergie pour quelque chose ? Non ! Non, parce que c'est toi qui m'a dit... Qui m'a dit pas plus tard qu'il y a deux jours que tu vas là où tu peux apprendre des trucs. Mmh. Moi, je trouve ça super. J'apprends plein de trucs sur scène. Le stand-up, c'est un métier avant de le faire que je connaissais pas du tout. Quand je t'ai dit que je suis pas une puriste, j'avais jamais vu un spectacle de Louis C.K. ou d'humoriste américain. Jamais. Je ne savais même pas qui étaient ces personnes. Dave Chappelle, c'est des choses que j'ai appris à la manière de quelqu'un qui se documente quand tu commences un métier. Presque comme des études. C'est pas un truc qui me faisait kiffer. J'ai fait un stage de stand-up. j'ai pris des cours particuliers de stand-up à la maison. Je suis allée voir un pote qui regarde beaucoup ça. J'avais jamais vu The Office. Je lui ai dit, toi, t'es un comédie geek. Fais-moi une liste de...
Sérieux?
Ouais. Je lui ai dit, fais-moi une liste de tous les trucs que je suis censée avoir vu. Seinfeld. Je savais pas qui c'était. Et je connais encore très mal. Je connais un peu plus parce que tout le monde t'en parle et qu'il y a des classiques qu'il faut avoir vus. Mais, du coup, moi, ça m'éclate encore le stand-up parce que je connais y a toute la face cachée de l'iceberg que je connais pas du tout. Mais si ça m'amuse plus demain et que je me dis putain, j'ai envie de tout connaître du métier de mixologue et d'aller faire des pina colada, ça va m'éclater. Et c'est pas grave si c'est plus le cas dans 3 semaines parce qu'on est tellement changeant, on est tellement instable de nature et je pense que notre génération est comme ça et que celle d'après le sera encore plus. On est tellement de moins en moins ancré que c'est tellement ok de changer d'avis et tant pis si c'est toutes les 5 minutes. Alors oui, tu vas perdre de l'énergie, du temps et de l'argent, mais c'est pas grave de perdre du temps. On est un peu là pour ça. Il y a pas d'aboutissement, surtout dans ces carrières-là. C'est quoi l'aboutissement d'une carrière de stand-up ? C'est être connu, c'est remplir ton Olympia une fois et t'es content et t'es arrivé au bout de ton objectif, faire un spectacle où tu parles de sujets. Où tu t'étais dit depuis le début, un jour je parlerai de ça. C'est, il y a pas de ligne d'arrivée en fait. Elle est là où tu la places, je pense, la ligne d'arrivée.
T'acceptes cette instabilité ?
Ouais. Mais c'est, je te le dis avec beaucoup d'aplomb, alors que ça m'a bien bouffé la gueule pendant des années. Je l'accepte maintenant.
T'as 29 ans là ?
29, ouais. 30 dans 6 mois, 5 mois.
Mais t'as 29 ans, quoi.
Ouais, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans et demi.
Ah, oh, pardon.
Ça compte les et demi avant 30 ans. Et ouais, et à 29 ans, je suis hyper contente et fière d'accepter de l'instabilité et de trouver de la beauté dans l'instabilité. Et même d'aller plus loin en me disant que bah, c'est le but. Pas l'instabilité péjorative au sens instabilité mentale, un jour je pleure, un jour je suis contente. Ou un jour j'ai le spleen et le lendemain ça va. Mais de l'instabilité dans les projets. Parce que du coup, ça s'appelle plus de l'instabilité, ça s'appelle de la curiosité, et c'est très lié. Et quand tu pousses la curiosité au bout du bout, et que tu transformes ta curiosité en projet, ça veut dire que tu vas faire plein de trucs différents. Et c'est plus de la stabilité, c'est juste quelqu'un qui fait plein de trucs, et c'est cool.
Moi, j'étais pas mal dans cette optique-là aussi, et mon mec me disait souvent, assez justement... Mais du coup, tu vas faire plein de choses et tu seras jamais vraiment bonne dans un domaine. Et c'est... Oui.
Ouais. Mais c'est grave pour qui, ça, du coup ?
Bah, si c'est exactement l'est... ce que j'aurais dû lui répondre, hein.
Bah oui. Non, mais si ça ne l'est pas pour toi, si toi, t'acceptes que tu seras jamais à 100% dans un truc, mais que t'auras mis toutes tes petites billes dans plein de petits paniers, mais que du coup, t'auras une fenêtre beaucoup plus grande et plein de prismes sur un même truc. C'est cool. C'est comme le voyage, tu vois. Il y a des mecs qui vont aller 8 mois en Colombie parce que c'est un très grand pays. Ils vont faire toute la Colombie en long, en large, en travers. Et t'as des mecs qui vont faire une semaine en Colombie, une semaine au Guatemala, une semaine au Brésil. Et dans le schéma 1 comme dans le schéma 2, qui peut dire j'ai vu l'Amérique latine ? Bah les deux, pareil.
Est-ce que la vie est un voyage, Morgane Cadignan ?
J'espère.
La deuxième question que j'ai posée tantôt...
Comment tu sais que t'es ancrée ?
C'est exactement ça.
Je sais pas si tu le sais, je pense après... C'est terrible, je pense que je vais être odieuse et imbuvable à écouter parce qu'on dirait que j'ai plein de certitudes, mais pas du tout, en fait.
On y viendra.
Non, mais je préviens les gens qui écoutent, je dis tout ça maintenant avec beaucoup d'aplomb, mais j'accepte que ça sera peut-être plus le cas dans 3 jours. Hein. Mmh. Un jour, on fera peut-être un podcast et je te dirai, tu te rappelles ce que je t'ai dit, les gens qui doutent, c'était de la merde, je suis hyper instable et je le vis tellement mal. Peut-être, mais non, ancré, je pense que c'est un truc que tu sens. Tu le sens si t'es bien, si t'es pas angoissé. En fait, je pense que tu arrives à le sentir quand ça a pas été le cas très fort. Quand il y a un moment où t'as été désancré ou très mal ou très malheureux, t'étais tellement mal, tu le sentais tellement sur tes épaules que le moment où...
C'est juste que tu te sens bien en opposition, quoi.
Tu te sens bien, ouais. Super. Mais c'est vrai qu'il faut souvent mettre la tristesse et la mélancolie et le spleen en face. Faut l'avoir été un moment de ta vie, je pense, pour savoir quand ça va.
Du coup, le titre de l'épisode, c'est ça, soyez très malheureux.
Ouais. Non, mais oui, faut... C'est très beau d'être très malheureux, parce que déjà, tu crées plein de trucs.
Ah non, 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 mais non, quand t'es vraiment malheureux, t'es pas capable de créer.
Ah oui, alors attends, parce que là, on retombe dans notre grand débat, tristesse versus mélancolie, et où est la différence ? Et on va y venir, mais... Non, c'est pas soyez très malheureux, c'est... Soyez très malheureux en vous disant que ça sera pas pour tout le temps. Pour moi, c'est ça les gens.
C'est compliqué de se dire ça.
Ouais, mais pour moi, c'est ça les gens qui ont la foi. J'ai une amie qui m'a dit il y a 2 semaines, même si tu t'en rends pas compte tout de suite, l'univers complote toujours pour ton bonheur. Et réussir à te dire ça quand tu vas très mal, en te disant bon là ma vie. C'est pas ouf, mais je sais que je vais vivre des trucs incroyables. Et là, je suis juste dans la salle d'attente de toutes les choses folles que je vais vivre. Pour moi, c'est ça, les gens qui ont la foi. C'est ça, avoir la foi, quoi.
Tu crois en quoi ?
C'est une bonne question. En aucun dieu, en tout cas, physique. En la vie. Je dirais. Non, mais je crois en le truc de l'univers qui complote pour ton bonheur, ça j'y crois. Tu vois, qu'il y a quelque chose qui te pousse à rencontrer des gens, à prendre ce métro-là, à aller tel endroit à un moment de ta vie parce que tu te l'expliques pas au ressenti. Et pour moi, c'est croire en l'univers et croire en la vie qui est de toute façon beaucoup plus belle qu'autre chose et beaucoup plus forte que toi. Et moi, et que tout le monde. Moi, j'aime bien me dire que je peux être pétrie de principes et de projets. À un moment, il y a une vague qui va faire que je pourrais rien faire du tout contre
le Covid.
Alors, pas une vague un peu plus joyeuse qu'une pandémie mondiale, une vague sans miasme, une vague de beauté, sans masque et sans microbes, avec des soignants très bien payés. Une belle vague. Et tu crois en quoi, toi ? À part ton chat ?
J'en sais rien. Je pense qu'il y a ce truc de coïncidences qui vont trop loin. Et quand des fois, tu rencontres quelqu'un, tu te dis, mais putain, il y aurait eu tellement de chances que ça n'arrive jamais. Et pourtant, il y a 1 milliard de petits paramètres qui ont fait que c'est arrivé. Mais sinon, j'en sais rien. Là, je suis en pleine période où je remets absolument toute ma vie en question. Et je sais pas...
T'ovules ?
Bah même pas en fait. Si au moins ça durait 2 jours, ce serait bien, mais là... J'ovule du cerveau, frère.
Bah... Si en plus c'est la pleine lune, je pense que tu vas imploser. Mais c'est pas grave de pas savoir.
Non,
est-ce que tu vas pas un peu mieux le jour où t'acceptes que t'en sais rien ? Est-ce que c'est pas un peu ça la clé, quoi.
En fait, je pense que t'acceptes... En fait, quand t'acceptes, ouais, l'incertitude, mais que t'as quand même des bases solides sur lesquelles t'ancrer, sur lesquelles te reposer, en fait. Quand t'as quand même un petit carcan, que tu sais un minimum qui t'es, la personne que tu veux être, les choses dans lesquelles tu crois et tout, oui, tu peux te baser là-dessus, te dire, OK, ce sont mes appuis, et accepter toute l'incertitude autour. Mais si t'as pas ces piliers-là, c'est chaud.
Et tu penses que tes appuis, ils sont forcément en toi, ou est-ce que ça peut être les autres ? Pas forcément la personne que tu aimes amoureusement, mais est-ce que ça peut être ta famille, tes...
J'ai tendance pour l'instant à croire que les autres sont très instables. Et donc...
Bah ouais, mais comme... En fait, ce qui est génial, c'est que c'est... Tu sais, c'est comme dans l'avion. Tu vas tellement vite que tu te rends pas compte que tu bouges. Là, les autres
sont... Ah, mais ça, c'est un problème.
Mais les autres sont tellement instables, mais toi, t'es tellement instable aussi, que si tout le monde est instable, personne ne se rend compte qu'on est instable.
Oui, mais non. En fait, de manière très très pragmatique. Genre il y a trop peu de gens où je me dis, ok, cette personne-là, ça, elle va rester dans ma vie. Je le sais. Il y a tellement peu de gens que je peux plus trop me reposer là-dessus, tu vois. Donc les appuis, je suis obligée de les trouver en moi. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis en pleine introspection de, ok, trouve des bases assez solides.
Ah ouais, parce que pour toi, les bases, c'est quelque chose. Oui, que je vois. Qui doit rester. Tu peux pas te permettre de changer de base les ans.
Tu peux, mais ça doit être stable. Et tu dois croire en ça, en fait. Tu dois être au moins sûr. D'accord. Le temps que ça dure, mais tu dois être sûr de tes bases, quoi.
Ok. Mais ça, on est d'accord. Mais c'est juste que je pense qu'il y a autant de bases que...
Qu'il y a de personnes. Gens, ouais. Oui, il y a évidemment ça. Mais il faut les trouver. Faut
ouais. Mais je pense qu'à 30 ans, tu peux pas.
Alors déjà, j'en ai 26.
Ah ouais. Mais dans ta trentaine, enfin, c'est...
Ouais, mais...
On peut pas tout avoir compris maintenant, c'est pas possible.
Non. Mais en attendant, c'est chaud.
Ouais.
C'est chaud de pas savoir l'incertitude. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à... En fait, tout ce que toi, t'as l'air d'accepter vachement plus. Moi, je suis en mode, oh là là, mais l'incertitude, comment... J'aime pas perdre mon temps, donc savoir que je suis en train de m'engager dans une voie sans savoir si... Ça va mener quelque part. Sans
attends,
ça...
après, je te dis ça là, encore une fois, c'est très nouveau. Hein. C'est une façon de penser qui a 6 mois.
Et
dans
comment elle est arrivée ?
Comment elle est arrivée ? Elle est arrivée en vieillissant un peu déjà. Elle est arrivée par une rupture. J'étais avec quelqu'un depuis très longtemps qui était vraiment une base pour le coup. Parce qu'on parlait de base, un pilier, un repère. Il y avait vraiment cette base et moi qui gravitais autour. Je sais jamais qui... entre le soleil et la terre.
Oh,
nous aussi,
Dieu,
on tourne autour du soleil.
Classique parisien, quoi. Ouais.
Oui, parce
en
que
fait,
on est la terre
tourne
et le soleil
autour de Paris.
On est tout. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages. Putain, le soleil et les camions poubelles, fait chier. Non, il y avait vraiment moi qui gravitais autour de ce pilier-là, et quand j'ai plus ce pilier, mais de mon fait en plus.
Ouais.
C'est moi qui ai mis fin à cette histoire. J'avais un beau château. De verre, et j'ai mis un énorme coup de pied dedans, et ça a remis tous les compteurs à zéro. Parce que quand tu te mets avec quelqu'un à 21 ans et que tu le quittes à 28,
tu grandis. T'as créé ta
tu
personnalité
grandis
avec.
Et tu te dis, faut tout réapprendre. Ouais. Faut réapprendre à être seul et faut réapprendre, ok, qu'est-ce que je suis en dehors du regard de cette personne? Qui je suis, en fait? Comme si demain on m'interviewe dans un podcast, qu'est-ce que je réponds? Donc c'est pour ça, c'est en ça que c'est très nouveau.
Et donc, comment on fait? C'est pour une amie.
je pense qu'il faut se forcer à passer beaucoup de temps seul. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé de... C'était très dur. Ça a été très, très dur d'être seul. Seul dans un appart, seul le vendredi soir, seul le samedi soir. Les dimanches ont été d'une tristesse pendant tout l'hiver incroyable. Mais en tout cas, la méthode, ça a été d'essayer de traverser ça sans essayer de trouver des palliatifs et de sortir avec des potes et de sortir boire des verres et d'appeler des gens, te dire non. Bah là, je suis solo et je vais l'être toute la journée et je vais parler à personne aujourd'hui. Et ça va être long. Et demain, ça sera un autre jour.
Putain, moi, c'est tellement une de mes angoisses en ce moment d'être seule et de me dire ok, j'accepte ça. Mais du coup, je me force à pas appeler des gens parce que je sais que j'ai besoin de combler, ouais, justement. Sauf que du coup, je pense que c'est aller trop loin. Et il y a un peu un truc d'enfermement, vraiment, de « tu dois aller bien seule
!» Ouais, et peut-être que tu dois aussi accepter que tu n'y arrives pas là.
Ouais, mais...
Je crois que quand t'es malheureux, là, peut-être, hein, j'en sais rien, mais peut-être que quand t'es malheureux, la vraie force, c'est d'accepter que tu l'es et qu'un jour, tu le seras plus. C'est pas de renverser la vapeur pour être heureux. J'aime pas du tout les gens qui disent « Oui, c'est plus facile d'être malheureux que d'être heureux, parce que heureux, ça demande des efforts. » Non. Attends, accepter ton malheur, c'est hyper dur. Et voyager et cheminer à travers ton spleen comme tu chemines à travers un deuil, c'est hyper dur parce que tu sais quand ça a commencé, mais c'est comme les brunchs, quoi. Tu sais quand ça a commencé, mais... ou les buffets, tu sais pas quand ça va s'arrêter, quoi. Mais il faut juste avoir la foi en disant que quoi que tu fasses, un jour, ça va s'arrêter. Il faut juste accepter qu'on... Essayer d'accepter qu'on sait pas quand.
Mais même si t'acceptes ça, en attendant... Qu'est-ce que tu fais en attendant la fin, en fait? Est-ce que tu te complais
dans... La fin, la mort, tu veux dire?
Non, mais là... Alors déjà, oui, Inch'Allah. Mais...
Can't wait.
En attendant... Pronostic dans un an, Club des 27, frère.
Oh non, tu me fais pas ça. Hein.
Genre même t'acceptes, tu vois, tu dis ok, ça va être une période vraiment longue, et le problème quand t'es dans ces périodes-là, c'est que t'as l'impression que ça va durer toujours. Mm-hmm. Mais si t'acceptes ça, qu'est-ce que tu fais en attendant? C'est qu'est-ce que tu fais pour essayer de
tu te masturbes.
Mais je sais, mais quand t'as même plus la force. En plus, quand
j'ai
t'as un chat
si
et que tu te dis putain, il fait plein de bruit, ça me dérange, et puis que tu mets ton oreiller sur ta tête, et puis que le chat vient se coucher sur l'oreiller pendant que tu te masturbes, qui est sur ta tête? Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, Morgane? C'est ça la question.
Mais qui es-tu pour te considérer malheureuse alors que t'as un chat qui s'assoit sur ta tête? C'est la plus belle chose du monde. Moi, je te trouve un peu difficile avec ta vie.
C'est vrai, je suis désolée.
En attendant, bah, tu regardes juste le temps passer, parce que je trouve qu'il passe vite, le temps.
Mais justement, c'est genre, le temps passe vite, j'ai pas envie de me casser le cul à être malheureuse, à perdre du temps, alors que j'aurais d'autres choses à faire.
Et bah, dis-toi que chaque jour où t'es malheureuse, il te rapproche du jour où ça ira mieux.
Oh, boring!
Mais non, mais comme chaque histoire d'amour qui foire, te rapproche de celle qui va potentiellement marcher.
Non,
le soleil va se lever,
nul.
Fanny.
Alors
non,
ça,
c'est pas
tellement
nul.
Parce que ça veut dire que tu considères que... Alors que je sais que c'est pas le cas. Mais que tu considères que il faut une histoire qui fonctionne au final. Alors qu'on en a encore parlé hier, une relation qui s'arrête n'est pas un échec. C'est juste
non.
Quelque chose de beau qui a duré un temps.
Pas, alors qui fonctionne dans le sens qui te rendra heureuse et épanouie. Au moins pour un temps, qui peut être très court.
Alors déjà, en plus, tu fais passer le bonheur par l'amour, ce qui n'est pas le cas.
Bah, beaucoup quand même.
Ouais, mais par
plus que par le taf, par
mais,
exemple.
Oui, mais de relation, oui, mais pas d'histoire d'amour. Oh là là.
Écoute, allez, alors
ah,
ça
la meuf
y est,
amoureuse
ça,
de l'amour.
Ouais, un peu. On va pas se mentir. Je trouve que... Bah putain, c'est quand même... Un des trucs qui vaut le plus le coup, quoi. Il y a que ça qui te fait avoir 15 ans toute ta vie. Et c'est hyper...
Et l'alcool.
Et l'alcool. Alors imagine les deux, mais les gens vont me trouver hyper con et gnangnan, mais... Enfin, je veux dire, à un moment, l'amour, si tous les plus beaux films, les plus beaux bouquins, les plus beaux livres, les plus beaux poèmes parlent de ce truc-là... C'est quand même qu'il y a un truc un peu immuable. Hein. Je pense que l'amour, on est un petit peu sur une valeur sûre en termes de trucs qui rend heureux les gens. Ou en tout cas qui te font vibrer, ou en tout cas qui te font ressentir des trucs.
C'est vrai qu'il y a un peu moins de poésie dans le petit manuel de la Startup Nation.
C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont de l'amour pour leur boulot. Hein. Ça peut être différentes sortes d'amour. Moi, l'amour que j'aime, c'est celui entre deux personnes.
Tu parles de la mort sur scène?
Depuis 2 jours.
Ouais. Donc, en fait, pour resituer un peu, on a fait un 30-30 avec Morgane il y a 2 jours, et la veille, on avait bu un peu de vin, et elle m'a pitché, en gros, son sketch sur le décès de son père, et j'ai demandé qu'elle le rejoue le lendemain. Et donc, c'est un truc que t'avais viré de ce que tu joues d'habitude.
C'est un truc que j'avais jamais joué. C'est...
Ah oui?
Ouais, non, c'est un truc que j'ai jamais joué parce que j'avais... Je me suis dit un jour, je vais parler de ça sur scène, mais j'avais pas trouvé la bonne forme et...
Eh ben, cherche encore.
Et cherche encore. C'est un passage qui ne va avec rien de ce que j'ai dans le spectacle. C'est que si d'un coup, sur toutes les thématiques que j'aborde dans le spectacle, J'arrive un quart d'heure, bon, on va parler de la mort d'un proche. Ça n'a rien à voir. Donc je me suis dit, tiens, c'est un set que je pourrais tester 5-10 minutes dans les comedy clubs comme ça. Et je l'ai fait à Bruxelles parce que tu m'as encouragé et poussé à le faire et que t'as ri quand je t'ai lu. Mais honnêtement, je pense que sinon, je l'aurais jamais fait. J'aurais pu ressortir cette note iPhone dans 3 ans.
Je suis un gourou.
T'es un peu un gourou, mais comme je te disais, tu sais, j'ai vachement de mal à parler de ça. Bon, parce que là, c'est le décès de mon père, en l'occurrence. Et j'ai du mal à en parler parce que j'estime que ce décès ne m'appartient pas qu'à moi. Qu'il appartient à mon frère, ma sœur, ma belle-mère, ma grand-mère. Et que j'ai du mal à m'approprier ce truc. Je sais pas si ça les ferait kiffer que quelqu'un en parle. Je sais pas si ma grand-mère serait hyper à l'aise avec le fait que quelqu'un fasse des blagues sur la mort de son fils. Et...
c'est fou ça quand même. Moi, ce truc de « ça n'appartient pas qu'à toi », j'ai vraiment du mal, parce que si, en fait. Enfin, moi, je trouve...
ma vision.
Ta vision, ton ressenti n'appartient qu'à toi.
Oui.
Et donc, c'est... En fait c'est valable pour tout dans le stand-up ou dans l'écriture ou dans l'art de manière générale. Tu prends des éléments de ta vie, de celle des autres, mais c'est à chaque fois, tu pars de ton ressenti. Et quand tu parles de situation, genre... moi, dans mon spectacle, bah, mon mec, il pourrait s'en plaindre. Jean, il pourrait s'en plaindre. Mmh. Mais pourquoi est-ce que tu te poses cette question-là sur la mort et pas sur les autres sujets ? Si tu parles d'amour, pourquoi tu ne poses pas la question et dire « ouais, ça appartient aussi à mon ex ?»
Bah, peut-être parce que j'ai pas encore bien fait mon deuil. Enfin, non, d'ailleurs, je déteste ce terme, on ne fait pas un deuil. Ça, c'est pas un truc que tu finis, c'est un truc à travers lequel tu chemines, mais peut-être que j'ai encore un problème avec ça. Peut-être que ça me fait peur encore. Peut-être que j'arrive pas à me l'approprier parce que c'est tellement huge et tellement beaucoup trop triste et injuste et inhumain de vivre ce genre de choses. Et encore, moi, c'était dans le bon ordre. Je n'ai ni perdu un enfant, ni voilà. Donc, ça va, tu vois, il y a vraiment pire. Hein. Mais peut-être que c'est trop. Peut-être que c'est trop et que j'arrive pas à en parler parce que, putain, comment parler d'un truc aussi ? Parce que je veux pas parler de la mort sur scène de manière super plombante. Mmh. Je veux pas arriver et dire « Bonsoir, voilà, j'ai perdu mon père et... oh. » Tu vois, et faire un truc hyper plombant. Je veux que ce qui ressorte de ce set sur la mort, ça soit justement une furieuse envie de vivre et une très grande confiance en la vie. Je veux qu'il en ressorte de l'espoir de ce truc-là. Et j'ai pas encore trouvé le moyen de parler de la mort et d'arriver à bien ficeler mon truc pour faire une conclusion. Mais malgré tout ça, la vie, c'est ouf. Je suis encore un petit peu plombée, je pense, à 15%. Tu vois, Kian le fait très bien.
Avec l'enterrement de son père.
Il arrive très bien à revenir à la fin dans l'écriture. Il y a un message d'espoir. Qui est même un peu absurde parce qu'il n'était pas sur la bonne tombe.
Spoil.
Ça va.
Il
est gratuit. C'est dans Pulsion.
Buzzer.
C'est dans Pulsion.
Oui, mais les gens
il est gratuitement sur YouTube. S'il y a des gens qui l'ont pas vu, c'est pas normal encore. Mais du coup, ouais, je voudrais vraiment parler de ça avec et qu'il y a un beau message derrière et qu'on se dise pas, tiens, cette meuf, la scène est une thérapie parce qu'elle fait le deuil de son père. Et... non, je veux que les gens se disent, ok. C'est, on sort de ce spectacle, viens, on va boire des coups. Moi, je veux que les gens sortent de mon spectacle en se disant, hey, on n'irait pas faire la teuf, viens, on va danser dans la rue, on va boire des coups, parce que la vie. J'ai pas envie que les gens sortent de là en introspection, s'assoient en culotte dans leur cuisine, en mouvement de balancier.
Mais là, ça c'est juste un jour normal de la semaine. ok, moi, j'ai beaucoup changé d'avis là-dessus. Justement, en parlant avec Kian l'année dernière, et là j'étais très dans une optique avec Thomas Wiesel aussi, j'étais très dans une optique si mon spectacle est pas drôle, c'est pas grave. J'ai décidé que c'était ça.
Ouais.
Et oui, il y aura un côté ouvertement, thérapie et tout, parce que justement ce que je cherchais c'était l'introspection. Et je pense que j'ai pas mal changé d'avis à ce sujet depuis ce moment-là, dans le sens où maintenant je suis en mode ok, c'est un spectacle d'humour.
Ouais.
On va quand même faire marrer les gens. Hein. Et donc j'ai viré, ouais, j'avais un bon quart d'heure sur la mort aussi. Un super sketch sur les enterrements d'enfants, oulala,
oh,
aux petits oignons.
Et... c'est bizarre. Je comprends pas que ça plaise pas aux gens, les enterrements d'enfants. C'est toujours une bonne manière de commencer un samedi, mais...
Bah, écoute...
Chacun... Il y a des gens qui préfèrent jouer au tennis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Les bourges, hein.
les bobos.
mais... et maintenant, ouais, j'ai un peu ce truc de faire la part des choses dans l'art et dans... Ok, là, c'est un spectacle d'humour. Si je veux parler d'un truc plombant, je le ferai différemment. Tant que je suis pas capable de le faire de manière drôle dans un spectacle d'humour.
Ouais.
Et ça, il m'a vraiment fallu du temps pour le trouver. Parce qu'au début, en fait, je pense que j'étais tellement la tête dans le guidon de « Ah, mon deuil, machin, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre », que je voulais le faire rentrer dans un carcan qui correspondait pas nécessairement, en fait.
Et puis, ouais, et puis le petit problème, moi, je trouve que... Enfin, il y a des gens qui font des spectacles introspectifs qui sont sublimes et qui sont drôles et qui sont bien sentis. Mais le problème que moi, j'ai avec ça, c'est que je me demande, mais est-ce que les gens ont envie de voir ça à un moment, quoi ? Si t'arrives pas à le rendre drôle...
Bah ça dépend. Faut, en fait.
Le but c'est quand même de faire rire les gens et qu'ils passent un bon moment.
Oui, oui et non. Bah en fait,
tu vois, on peut pas être égoïste au point de faire ton introspection et de permettre que ça soit pas drôle. Hein. Faut
ouais,
pas
mais là je suis genre quand tu vois des genre je les cite dans tous les épisodes, mais toute la clique Anna Gatsby, Daniel Sloss et tout. Oui, c'est très drôle, mais c'est aussi très introspectif et tout. Et je trouve que c'est ok, tu vois. C'est juste il y a un peu un truc de ce que
drôle.
Tu vends aux gens. Oui, c'est très
beaucoup
drôle.
Plus drôle que ce que j'ai réussi à faire il y a 2 jours. Tu vois, si un jour j'arrive à en parler comme Daniel Sloss ou Anna Gatsby, yes, bah j'ai gagné le jeu. Hein. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, j'ai pas encore trouvé la bonne forme. Mm. En fait, je voudrais que ce qui ressorte quand tu, de, je voudrais parler de la mort et en faire ressortir un truc de, mais c'est pas grave.
Alors si, hein. Un peu.
Bah, ça dépend pour qui. Il y a des gens, enfin, c'est, est-ce que c'est plus grave pour ceux qui partent ou pour ceux qui restent?
Ah ouais, non, mais
c'est la grande question de l'œuf ou la poule du, c'est l'œuf ou la poule du deuil.
Qu'est-ce qui meurt avant?
L'œuf ou mon père? La réponse, les deux.
Quel œuf.
Les deux ont une date de péremption beaucoup trop rapide. mais, tu vois, là, on arrive à en rire. C'est déjà beau comme moment.
Ouais.
Je suis peut-être trop contemplative, mais bon. C'est un autre sujet.
Je pense que c'est la première fois que je rigole à une blague d'œuf.
C'est vrai?
Ouais.
Mais c'est parce qu'on l'a enrobé un peu de mort.
Oui, ça. Un grand classique.
Il y a les œufs mimosa, les œufs mollets et les œufs au deuil. C'est pas facile à gérer, mais c'est très très bon. Du coup, j'allais démarrer une phrase de Proust et je me dis que c'est imbérable.
Vas-y.
Est-ce que je peux être plus... Mais pour conclure ce qu'on se disait,
ouais.
Un truc que je me... Il y a une phrase dans La recherche du temps perdu, je crois qu'on va pas lire aux gens, on va pas mentir aux gens, je l'ai absolument pas lu, mais je connais juste cette phrase qui est il existe dans ce monde où tout s'use, où tout périt, quelque chose qui se détruit encore plus facilement, qui tombe en ruine encore plus rapidement en laissant encore moins de vestiges que la beauté, c'est le chagrin. Et c'est ça qui doit ressortir de ce set que je veux faire. C'est très malheureux, c'est très dur, mais c'est pas ça qui reste. Je pense foncièrement que quand tu meurs, c'est pas les moments où t'as été le plus mal qui restent. C'est les moments de joie. Je pense que c'est la beauté qui reste à la fin quand t'as fini de gratter. Ou fini de vivre. Ou fini tes œufs. C'est le beau qui reste. Et de la même manière sur mon spectacle, bon, je sais pas, un spectacle de danse sublime ou en alexandrin, donc c'est pas forcément du
manque,
beau
hein.
qui reste à la fin, mais je voudrais que ça soit de la joie qui reste. À la fin du spectacle et à la fin de ma vie d'ailleurs, hein, je détesterais que les gens disent de moi quand je suis morte... Quel être sinistre elle a été.
Arrête de me voler mes épitaphes. Qu'est-ce qui te fait rire, toi?
Toi, déjà.
Oh,
allez,
ça, oh là là.
Écoute, c'est très impudique, cette manière de se draguer en podcast. Qu'est-ce qui me fait rire? Il y a des trucs très cons qui me font rire. Genre par exemple un jour, il y a pas longtemps, je me promenais il y a 2-3 semaines avec des potes au bois de Vincennes et il y avait vraiment un tronc d'arbre et je l'ai mis en story. Il y avait un tronc d'arbre avec une bite taguée. Et j'ai pris un fou rire parce que ça m'a donné de l'espoir de me dire, putain, c'est comme, non mais tu vois, c'est comme un paix ou quelqu'un qui tombe. C'est foutrement toujours drôle. Et me dire que dans ce monde qui est dur, le Covid, les violences policières, l'instabilité, la pauvreté, la famine, il y a quand même un mec qui a vu un tronc d'arbre, qui avait une bombe de peinture et qui s'est dit, hey, est-ce que je t'agrée pas une bonne vieille tub des familles? Et je trouve cette idée rassurante de se dire que, de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, et pourquoi pas? Et ça m'a fait beaucoup rire. Après, il y a des humoristes qui me font beaucoup rire, il y a des...
Tu préfères les tubs ou les humoristes?
Pas les tubs d'humoristes, déjà. Mais non, je crois que je préfère... Coucou maman, je crois que je préfère les tubs. Hein.
Voilà, on a fait une croix sur le bingo, répondre au premier degré aux questions qu'ils n'ont pas.
Après, à nous de bien nous entourer, mais on arrive dans des âges où ta bande de potes, ou les gens en tout cas qui constituent ton cercle très proche, est un peu défini. Moi, j'essaye de m'entourer que de gens super bienveillants et aimants, et en face de qui c'est absolument pas grave d'être ridicule. Ou de dire le mot trop, ou d'être chiante, ou d'être la Morgane que j'aime pas.
C'est quoi la Morgane que t'aimes pas?
Celle qui parle depuis une heure dans ce micro, c'est avec des grandes certitudes de merde. Ouais, je m'autogonfle.
Ah vas-y, dis-moi pourquoi.
Parce que je trouve
Tout de suite, analysons ce podcast des gens qui doutent avec Morgane Carignan.
Non, mais je trouve que j'ai l'air hyper sûr de ce que je dis. Alors que je suis pétrie de doutes et que le podcast s'appelle Les gens qui doutent et que si je le fais, c'est parce que tu sais que je suis un gens qui doute. Mais là, pour essayer de bien organiser ma pensée et de faire des phrases un peu construites, on dirait que je suis pétrie de vieux principes, de certitudes et de compréhension sur la vie, alors que je déteste les gens qui ont fait un an de thérapie et qui ont l'impression d'avoir la super vista sur la vie et le mental, et les autres, pas du tout. C'est pour ça que je rappelle vachement souvent que je vais potentiellement changer d'avis là-dessus dans 6 mois et qu'on fera un deuxième épisode.
C'est quoi ton questionnement le plus tenace pour l'instant?
De manière générale?
Ouais.
Pas dans la vie, pas dans le stand-up?
Non.
Mon questionnement le plus tenace? Est-ce que je vais être profondément heureuse? C'est la question que je me le pose le plus en ce moment. Et à 85%, je suis quand même optimiste, donc je me dis que oui.
Et les 15 derniers pourcents, c'est quoi?
C'est le doute. C'est de te dire que potentiellement... Enfin, en fait, tu sais, mais ça, je te l'avais déjà dit, là, j'ai un peu l'impression... Je sais que je vais vivre des trucs, des très belles histoires d'amitié, je vais faire des très belles rencontres, je sais que je vais faire des beaux voyages, parce que je vais faire en sorte que ça arrive. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression d'être dans la salle d'attente de tout ce truc-là. Mais j'adore ce moment. Je le savoure. Tu vois, c'est comme quand tu sais que tu vas partir en vacances... La semaine d'avant, t'es sur les dents, t'es là, ah, l'avion dans 6 dodos. Là, je suis à 1000 dodos d'adorer ma vie.
Oh,
mais, et les 15 derniers pourcents, c'est, bah, t'as toujours ce... C'est même, non, c'est
peut-être
même pas 15.
Peut-être qu'il y aura grève.
C'est pas 15%, c'est 2%. C'est à 98%, tu sais que tu vas être profondément heureux. Moi, j'en suis sûre. Mais il y a toujours ces 2% où je me dis, putain, imagine, les timings se loupent. Parce que c'est une question de timing, hein, je pense. Les gens que tu rencontres, est-ce que tu les rencontres au bon moment de ta vie, de la leur c'est un truc de planète qui s'aligne. Et il y a quand même ces 2% où parfois je me dis, meuf, imagine-toi que le truc soit mal câblé juste pour toi et que tu loupes le truc. Mais ça, tu le sais jamais. Je pense que j'espère que j'aurai de l'espoir jusqu'au bout. Il y a que sur mon lit de mort où je me dirais, hey, encore raté. Mais... Vers 50 ans, je me dirais quand même, là, faut que ça se précipite quand même. Hein. Là, on va devoir rentrer dans une dynamique d'urgence, mais c'est quoi, toi, la question que tu te poses le plus?
Qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment toujours ça en ce moment, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que...
Au global?
Ouais. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que...
Bah, tu vois, j'ai une pote qui m'a, quand je me la posais cette question, parce qu'on se l'est tous posé, qui m'a vachement aidée en me donnant ce conseil que je vais à mon tour te léguer comme des boutons de manchette dans les films américains.
Yes, please.
Mais moi, je te lègue un conseil que ma pote Anaïs m'a donné, qui m'a dit ok, qu'est-ce que tu veux à 30 ans? La question, elle est beaucoup trop globale et la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc, descends d'un step, en fait. Réduis la question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui déjà? Qu'est-ce que tu veux bouffer? Qu'est-ce que tu veux la semaine prochaine? Parce que la vie, elle est de toute façon tellement longue, tellement belle, mais tellement dure à la fois, que franchement, je crois que le but, c'est déjà passer une bonne semaine. Si moi, je me réveille un dimanche en me disant « Tiens, là, ça fait 8 jours consécutifs que c'est chambé, mais c'est déjà un peu gagné, quoi. » Le « Qu'est-ce que tu veux au global ?» Et ça serait pas un peu nul de le savoir? C'est pas un peu ça, le but?
Bah, moi, j'aime bien que tout soit très bien organisé, cadré, tout ça. Je n'ai aucune spontanéité, donc...
T'as peur du vide?
Oui. Bah, le vide, c'est la place pour le doute. Et I'm done.
Ouais, mais t'aimes les gens qui doutent?
Oui, les gens qui trop écoutent.
Leur cœur s'est balancé. Oh. Écoute.
Mais, ouais, mais en fait, là, j'ai besoin de certitude. Il y a trop de place pour le doute en ce moment et j'ai besoin de certitude et j'ai besoin de savoir où je vais. Et là, le fait de pas savoir, le fait de n'avoir aucune certitude dans ma vie, c'est horrible. Et donc, c'est ça, en fait. Mais c'est pour ça que la question... Mais oui, maintenant, j'essaye de
réduire. Mais c'est marrant comme on est à l'opposé.
Oui.
Toi, c'est ce qui te rend profondément malheureuse et moi, ouais, c'est ce qui m'a fait un petit peu vibrer de me dire que... Putain, il y avait cette phrase de... Bon, ça ramène un peu au cul et aux histoires d'amour, mais que j'adore dans Sex and the City.
Sex and the City.
J'ai eu un accent très bizarre.
Très parisien.
Sex and the City, hein. Que j'adore. À un moment, elle prend une trousse de maquillage dans son sac et une culotte propre parce qu'elle te dit, dans une ville comme New York, tu sais jamais comment la soirée va se terminer.
Dans ton lit à 22h avec Timothée, c'est comme ça qu'elle va
se
terminer.
Très très potentiellement, mais c'est un truc que j'aime bien me dire de ouais, il n'y a pas de certitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Imagine. Et à la fois, si tu veux voir ce truc-là d'un point de vue pessimiste, tu peux, parce que ce qui va se passer, c'est peut-être te prendre un tramway. Comme ça,
la
faire une
de
belle
toilette,
rencontre.
Du coup. Elle est morte, mais elle avait une culotte propre.
La meuf, tu te prends un tramway, t'as intérêt à avoir un fond de teint bien couvrant, quoi. On est sur un SPF 50 de chez MAC. Coucou les amis, bon, là ça part en podcast beauté.
D'ailleurs,
en cas de...
Si vous prenez un tramway... Mac qui sponsorise ce podcast.
Est-ce que j'ouvrirais pas une chaîne YouTube de maquillage en cas de...
Vous avez
si tu t'es pris un tram...
50% avec le code tramway.
On fera des jeux de mots de cosmétiques sur... Est-ce que le slogan de la marque, ça peut être un peu... un maquillage nommé Désir?
J'ai pas la ref.
Parce que je l'ai tellement mal amené.
Oh,
un tramway nommé Désir.
Ah, ok, d'accord.
La pièce.
Ouais, non, j'ai pas lu.
Avec un mec en Marcel qui s'embrouille avec une meuf.
Tu confonds avec camping.
Oui, si. T'imagines, ça serait drôle, quelqu'un qui croit avoir beaucoup... Quelqu'un qui croit avoir beaucoup de culture et qu'on n'a pas du tout.
C'est snob,
tu
cette
sais...
phrase.
Non, mais,
oh,
mais, non,
si.
Mais non, ça serait tellement drôle, quelqu'un qui croit te faire le pitch de Madame de Bovary et qui en fait te raconte camping. Tu vois, ça me fait rire. Un mec qui est là, ouais, dans Shakespeare, tu sais, Hamlet, quand il arrive et qui demande si on n'attend pas Patrick, et le mec serait hyper sûr de lui. Et la gueule des gens autour. Moi, j'adore le jeu de... Avec une pote, on fait beaucoup ce jeu-là, des fausses anecdotes historiques. Et de faire le guide dans la rue en disant des trucs complètement faux et invérifiés et absurdes. Mais j'adore l'aplomb des gens qui, ouais, se trompent avec tellement de certitude. C'est des gens chez qui j'adore remettre une pièce. Ah ouais, mais vas-y, explique, du coup, il a fait
c'est
quoi, ce mec?
C'est un du coup, t'as aimé?
Idole. C'est mon animal totem, Serge Le Mito. C'est... Non, mais... C'est du... Et en plus, j'ai adoré regarder les bêtisiers de Serge Le Mito parce que Jonathan Cohen est brillant d'impro parce qu'il part tellement en couille. C'est... Oui, j'ai adoré.
Pourquoi dans le spectacle, il a plus de titre alors qu'il en avait un?
En premier lieu, il s'est appelé Confession Nocturne.
Parce que Diem Sevita.
Parce que Diem Sevita. Et j'ai même pas fait exprès qu'il y ait un petit côté divan de psychanalyste. Confession nocturne, la nuit. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais on croyait qu'on allait voir un truc hyper introspectif.
Alors, à la Edouard Baird.
Exactement. Alors qu'il y a un moment où c'était juste moi qui chantais les paroles de Confession Nocturne, comme si c'était Jésus qui les chantait. Parce que je faisais un parallèle Vita.
Un peu comme quelqu'un qui pense qu'il a de la culture et.
Exactement. Et ça commençait par Moïse, assieds-toi, faut que je te parle. Enfin bon, bref. Et c'était surtout, comme le, je pensais pas que ce spectacle vivrait autant. Je l'ai commencé à la petite loge dans une salle de 25 personnes et j'avais pas la prétention à l'époque de jouer dans une salle plus grande. Donc je me suis dit, je vais mettre un titre qui est un beau clin d'œil à nos soirées entre potes.
Ok.
Et aux années 2000. Et quand c'est devenu un peu plus sérieux et qu'il a fallu écrire des communiqués de presse.
Oh.
Et le mettre, et voir ce titre sur des affiches et sur des billetteries. Là, ça a vraiment commencé à me faire chier qu'il s'appelle Confession Nocturne. C'était un peu le mettre dans un carcan. Ça lui rendait pas honneur, en tout cas, je pense.
Et du coup, là, pourquoi t'as pas choisi un autre titre?
Parce que j'en ai pas trouvé.
C'est de la paresse, en fait.
C'est de la paresse, et puis il y a une petite mode en ce moment dans le stand-up de faire sauter le titre. Parce que c'est très dur de pas être ringard.
Ouais.
Quand t'as un titre, moi je retombais souvent sur un jeu de mots et surtout pas un jeu de mots dans
Morgane
un titre.
Morgane qui a dit gnangnang.
Morgane qui a dit oui, oh là là.
Oh non.
Oh là là. Voilà, donc pour éviter ça, justement, j'ai préféré couper l'herbe sous le pied de la vie.
Ah, ça c'est mon genre.
Voilà.
Tell me more about it.
Et je pense que Morgane Cadignan, ça raconte assez de trucs. Mais c'est Rosa Burstein qui a appelé son spectacle s'appelait Tenir debout.
Mm-hmm.
Alors non, son tout premier spectacle s'appelait Ma première fois.
Mm-hmm.
Après, la V2 s'est appelée Tenir debout, que je trouvais très beau. Parce que ça raconte plein de trucs. Ça raconte comment on fait pour être heureux et tenir debout, le stand-up, machin. Et là, elle l'a juste appelée Rosa. Quand elle va reprendre là au point virgule, et bon, déjà, c'est un très beau prénom et je trouve ça chouette. Ton prénom dit.
Ouais.
Ça résume en fait tout ce que t'es, tout ce que tu penses, tout ce que t'as envie de dire.
Rosa, qui a d'ailleurs le meilleur titre de podcast de l'univers.
Les mecs que je veux ken.
Je trouve ça incroyable. Honnêtement.
Mais est-ce que les mecs qu'on veut ken sont pas un peu des mecs qui doutent?
Ils doutent surtout qu'ils veulent te ken.
Merci. Non, mais j'ai un peu envie, envie d'un crossover.
Un crossover avec vous. Rosa?
Ouais.
Je la connais pas du tout. Enfin, je l'ai vue une fois, mais...
Les mecs qui doutent qu'ils veulent me ken.
Les doutes que je veux ken, ça c'est moi.
Mais non, voilà, ouais, j'ai fait sauter le titre. Et je suis plutôt contente, parce qu'il y a eu une nouvelle affiche, etc. à un moment aussi. Donc c'était le moment de remettre un petit coup de polish sur toute cette com.
Dernière question. Il y a deux jours.
On continue toute la vie.
Si tu veux. Dernière question. Pourquoi tu veux pas coucher? Non.
Le coupe pas, s'il te plaît.
Okay. Il te faut quoi pour être heureuse cette semaine?
On est lundi. Écoute, déjà, il fait beau. Et ça, c'est mon bonheur et ma joie de vivre. Suit assez le rythme des saisons, même si c'est très banal hein, d'avoir le cœur qui suit le rythme des saisons, c'est même un peu
déjà d'avoir un cœur
un peu affligeant. Quelle idée. C'est tellement 2019 d'avoir un cœur. Non, bah là tu vois, il y a du soleil, je sais que je vais voir des potes, je pars en vacances la semaine prochaine, j'ai 2-3 apéros de prévu et honnêtement pour l'instant ça me suffit bien. En plus, je suis en train de finir un livre que j'ai trouvé profondément chiant. Donc là, je sais que
je vais sur les imbéciles.
Ouais, bah écoute, tout le monde, c'est dans la liste Le Monde des 100 bouquins à avoir lus. Je sais pas quel est le con qui a dressé cette liste, mais bon, je m'emmerde. Mais je sais que c'est un classique et que. Mais je suis peut-être passée à côté. Je pense que je suis trop con pour comprendre le sous-texte et la critique de la société américaine érigée.
Ce qui sera le titre du podcast.
Je suis trop con. Jusqu'où pas, je suis trop con pour comprendre. Mais en vrai, pour paraphraser un autre grand poète que j'aime, qui est Balou.
Balou, Ah, yeah. Ah non, tu vas pas faire ça.
Non, mais il m'en faut peu.
Ah non, mais non, tu peux pas dormir.
Meuf, je t'ai pas changé, mais moi, du soleil, du rosé, des potes, je sais que je vais rire, que je vais commencer un bouquin que je kiffe. Putain, puis on est en juillet, on est dans la meilleure saison de l'année. Je m'enjaille, t'as vu, là, je me suis redressée, je m'enjaille, mais putain, ça me rend déjà... Je trouve ça déjà très cool. Je sais que je vais aller en Guadeloupe pendant un mois, dans un mois. Là, la perspective, déjà, ça me tient jusqu'au 18 août, c'est sûr. Parce que je sais que je vais voir l'océan et que je vais être sur ma petite île et que ça va être bien. Et pour l'instant, ça suffit. Là, je sais que j'ai 3 semaines où ça va suffire. Après, en septembre, peut-être que je vais m'écrouler telle une énorme merde.
Inch'Allah,
ça se passe comme ça. Mais pour l'instant, je trouve que voir à 3 semaines, c'est un putain de luxe dans le monde dans lequel on vit.
J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller voir Morgane Cadignan sur scène. Elle jouera son spectacle à la Comédie des Boulevards à Paris dès le mois d'octobre et dans pas mal d'autres villes en Belgique, en France, tout au long de l'année. Je vous mets le lien vers toutes ces dates dans la description. N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent via votre application de podcast, à mettre des étoiles sur iTunes, tout ça, tout ça. Un nouvel épisode sort très bientôt et je sais que je dis ça à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vrai. D'ici là, ben, faites attention à vous et n'oubliez pas de dessiner des tubs partout. Bisous. Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu.
Alors, est-ce que tu peux parler ?
Est-ce que tu m'entends bien ?
Je...
Est-ce que j'ai une belle voix de radio ? Est-ce que j'ai une voix aussi belle que ta robe ?
Oh là là, tu me flattes.
Arrête de me chauffer.
Tu me flattes et tu me baisses jamais.
Chacun de tes rires m'enterrent.
Oh yes.